France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je suis Idil Biret. Je suis née à Ankara, en Turquie, le 21 novembre 1941. Et je suis, bon, s'il faut parler d'un métier, je suis musicienne.
Quand vous jouez Boulez, Boukourichliev, Ligeti, tous ces compositeurs, Idil Biret, est-ce que c'est aussi le sentiment d'un vent de liberté?
Oui, aussi, parce qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas se permettre de faire, qu'on pouvait faire, qu'on pouvait réaliser. Peut-être une sorte de violence. Je compare parfois, par exemple, vous parliez des œuvres de Boulez, dans les sonates en tout cas. Les œuvres pianistiques. Je vois ces œuvres comme si je faisais du mime sur la scène, avec des gestes et des choses. Donc, c'est une musique extrêmement visuelle. Il faut mettre en pratique tout ce que votre imagination est, être le plus précis possible. C'est presque listien. Il faut avoir beaucoup d'audace et ne pas dire « Ah, mon Dieu, comment je vais faire ce saut ?» Il faut faire le saut, sans hésiter.
C'est intéressant ce que vous dites, Idil Biret, du côté physique aussi du pianiste. Lorsque vous jouez le concerto de Schoenberg, je crois que c'est Brendel qui vous dit, tu vas voir, c'est très cérébral, c'est très intellectuel.
Oh non, 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 je ne crois pas. Enfin, intellectuel, oui, parce que il y a l'intellect qui travaille, puisque vous devez produire une œuvre qui soit équilibrée. Mais je crois qu'il ne faut pas trop intellectualiser la musique. C'est-à-dire, la musique est une entité, c'est ce que c'est. J'ai très peur de tout ce qui est romancé, parce que on se limite, et la musique n'a pas de limite, à mon avis. Donc, il faut pas. Lorsque on veut inspirer quelqu'un, on raconte des histoires, ça, je suis pas convaincue. Peut-être si vous trouvez que la personne en face n'a aucune sorte d'affinité pour la, peut-être pour un petit peu faire marcher certaines choses un peu, mais ça c'est très dangereux. La musique est la musique. C'est beaucoup plus étendu que des mots qui limitent.
L'imagination, c'est très important dans la musique.
Oui, on imagine la musique. C'est-à-dire que vous avez un esprit qui est comme une sorte de papier musique. C'est ce que j'ai toujours pensé. Alors vous avez sur scène, vous avez quelque chose qui contrôle. Ça dépend naturellement qui contrôle. Je pense que c'est d'abord savoir de quoi il s'agit. Ensuite, donner l'ordre au cerveau de jouer et de jouer la chose juste. Et puis en plus, il y a une autre voix qui écoute et qui donne les directions. Puis il y a une autre voix qui est au-dessus, qui critique de loin, qui entend de loin. Vous êtes complètement divisé, en fait, en plusieurs, je ne sais pas, peut-être même beaucoup plus que je ne le dis. Là, j'ai un peu simplifié. C'est beaucoup plus complexe. Et c'est comme une immense partition où on jouerait la même chose, mais vue sous différents angles. Et il ne faut pas trop penser. Il faut surtout ne pas penser à quoi que ce soit pendant qu'on joue. Et puis, il faut avoir les réflexes. Ce qui veut dire qu'il faut avoir beaucoup travaillé. Il faut avoir ces réflexes conditionnés. Et je crois que la meilleure façon, au fond, je suis désolée, ça va vous sembler aride, mais c'est de faire des exercices et des gammes et des choses comme ça. Malheureusement, je sais que c'est passé de mode, mais il faut le faire.
Il faut travailler davantage les gammes et les études que les morceaux, que les pièces.
Oui, les morceaux, il faut les lire, il faut réfléchir, il faut, si on veut créer une différence abrupte, bien pouvoir contrôler. Mais c'est surtout que les membres vous obéissent. Et puis, il y a cet autre travail qui est la lecture du morceau et aussi l'inspiration. Je n'aime pas trop dire ce mot, mais...
Pourquoi ?
Parce que l'inspiration, ça dépend beaucoup de l'acoustique de la salle. Vous avez une salle qui est, par exemple, dans une église. Vous ne pouvez pas jouer de la même manière que lorsque vous jouerez dans un studio. La pédale doit être utilisée à bon escient. Si vous êtes dans une très grande salle, peut-être, il ne faut surtout pas forcer, surtout ne jamais forcer. Ça, c'est très important. Vous savez, on peut parler pendant 10 heures sur ce sujet.
Les études de Chopin, c'est un pain quotidien ?
Oui, les études de Chopin sont parmi les plus difficiles qui existent parce qu'il faut que tout soit très précis. Et puis, il y a plusieurs voix à la fois. Et souvent, on n'entend qu'une continuation. On n'entend pas la superposition des voix. Mais je pense que vous pouvez jouer tous les jours les études de Chopin. Et ne pas prendre ça comme une chose bien entendue. Il ne faut jamais prendre les choses comme ça en disant « Ah oui, ça, de toute manière, je connais. » On ne connaît jamais assez. C'est pour ça qu'il faut toujours revoir. Et chaque fois que je reprends un morceau que je n'ai pas joué depuis longtemps, je prends du début. Je refais tout le travail. Peut-être que ça me prendra moins de temps que la première fois, mais il faut faire ce travail.
Le quotidien de la pianiste que vous êtes, Idil Birette, quel est-il ? Est-ce qu'il y a des partitions que vous jouez tous les jours ? Par exemple, les études de Chopin, par exemple, du Bach ?
Ça va vous sembler vraiment ridicule, mais vous savez, les exercices de Hanon sont merveilleuses. Parce que là, vous avez tout ce qu'il faut. Vous pouvez transposer, les jouer dans un certain tempo, les jouer plus rapidement. C'est ce qu'on faisait au conservatoire de Moscou du temps de Rachmaninov et de tous ces gens qui jouaient extraordinairement bien du piano. Et aujourd'hui, j'écoute les vieux enregistrements, c'est inouï. Rachmaninov, à mon avis, est un des plus grand pianiste qui ait jamais existé. Lui-même disait de Liszt. Ah, si nous avions eu la chance d'entendre Liszt. Je pense que ça aurait été la même chose. Mais les élèves de Liszt, les enregistrements, vous êtes étonnés par le côté presque austère de leur interprétation. Attends. Et pour moi, c'est l'époque d'or où les gens vraiment jouaient d'une manière extraordinaire, aller au fond des touches, avait un legato parfait et non pas au-dessus des touches. Donc, c'est le monde que moi j'admire. l'époque, Rachmaninov avait une très mauvaise presse partout. Nadia Boulanger me disait, joue tout ce que tu veux, sauf du Rachmaninov et du Khatchaturian. Je ne sais pas pour quelle raison. Elle trouvait que c'était trop sentiment. Tandis que je trouve que ce qu'il a fait est vraiment dans le genre folklore caucasien. On ne peut pas mieux faire. J'adore les thèmes qu'il utilise. Enfin, je parle de Khatchaturian. Mais Rachmaninov, Nadia Boulanger m'ayant dit ça, je prenais à la lettre à cette époque tout ce qu'on disait. Et je suis venue passer des vacances à Istanbul. Et j'étais chez mon oncle. Et j'ai dit, ah, Rachmaninov, quelle super fidélité, je ne sais pas quoi. Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Écoute ça. Alors, il me met le disque de Rachmaninov jouant ses œuvres. Alors, je me suis dit, ce n'est pas possible. Si on peut jouer ses œuvres comme ça, c'est que nous voyons tout de travers. Il y avait cette sorte de noblesse, d'austérité, de perfection pianistique. J'étais absolument éblouie. Alors, en rentrant à Paris, je dis, je vais me mettre au travail et revoir toutes mes idées, toutes faites. Et c'est comme ça que un jour, je suis arrivée chez Mademoiselle Boulanger. Elle me dit, qu'est-ce que tu travailles? Alors, j'étais un petit peu gênée. J'ai dit, c'est les variations chorales. Ah, je savais que tu en arriverais là. Mais enfin, montre-moi ça. Alors, j'ai commencé à jouer. Puis c'est très bien écrit. Et ça sonne très bien. Et de plus en plus, elle s'intéressait. À l'époque, Sviatoslav Richter avait fait le disque du deuxième concerto qu'il avait donné à Mademoiselle Boulanger. Et Mademoiselle Boulanger avait perdu son cœur pour ce disque. Elle l'a dit, au fond, peut-être qu'on a été un peu injuste. Je crois... c'est comme ça que les choses ont changé. Mais même dans le Groves Dictionary, il y a un article honteux dans la deuxième édition. Mais maintenant, ils l'ont changé. Il était temps.
Grands entretiens d'Idil Birette, France Musique.
Racontez-nous vos débuts aux États-Unis, Idil Birette.
J'ai donc été engagée à jouer avec l'orchestre Boston, le troisième concerto. D'abord, je devais jouer le concerto de Busoni, avec chœur et tout. Et je ne sais pas pour quelle raison ils ont renoncé à cette idée. Et ils m'ont demandé de jouer le troisième de Rachmaninov, que je vais jouer un petit peu. J'avais joué à Londres, enfin à plusieurs endroits, avec Pierre Monteux. C'était extraordinaire. Et alors, je suis arrivée à Boston. Et comme le 21 novembre était mon anniversaire, ils ont été très gentils. Ils ont joué le Happy Birthday to You. Le lendemain, le 22 novembre, je suis arrivée à la salle. J'étais là, j'attendais. Et je voyais qu'il y avait quelque chose d'étrange dans l'ambiance générale. Et Erich Leinstorff, qui dirigeait l'orchestre, est arrivé et dit, ah, vous êtes là, c'est bien. Je dis, mais pourquoi me dit-il que je suis là? C'est normal que je sois là. Puis après, j'ai eu la secrétaire de Leinster qui est arrivée et qui était dans un état vraiment pas normal. Elle était au bord des larmes. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est très étrange. Et je devais jouer la deuxième partie. Et puis, mon père est arrivé et il a dit, bah, tu sais que le président Kennedy a été victime d'un attentat au Texas. On n'a pas encore le résultat de ce qui s'est réellement passé, mais il est très grièvement blessé. Et on ne sait pas si le cancer va continuer ou pas. Alors, j'ai entendu 45 minutes à peu près. Et puis, il y a eu le président de l'orchestre, Mr. Cabot, qui est arrivé sur scène. Le jour où j'avais perdu mon père, je suis allée au cancer pour trouver une sorte de bon, consolation. Et j'espère que vous allez prendre ça de cette manière, puisque nous allons continuer le concert. Alors, il y a eu des applaudissements, et puis nous sommes arrivés sur scène, et on a joué le concerto qui était radiodiffusé. Et maintenant, il y a un disque qui est sorti de ce concert. Il y a quelque chose, une ambiance un peu électrique.
Pour vous, Idyl Biret, là, vous parlez de cette expérience et de ce récit le jour de l'attentat contre JFK. Mais si on pense à la musique en général et à votre rapport à vous, à la musique, vous diriez que la musique, c'est aussi une consolation?
Non, non. Non, non, la musique n'est pas une consolation, la musique est quelque chose, mais que je n'associe absolument pas avec un état d'âme, absolument pas. C'est quelque chose, pour moi, ça reste peut-être dans l'abstraction, telle que je le conçois.
C'est
Je
intéressant.
n'ai aucun rattache sentimental ou quoi que ce soit avec la musique et la musique. C'est une entité qui ne peut pas s'expliquer.
De vos débuts aux États-Unis, on pourrait parler de ceux qui se sont passés juste avant en Russie. Comment est-ce que vous êtes allé jouer en Russie la première fois?
C'était pendant le concours de 1957. J'avais terminé le conservatoire à Paris et Nadia Boulanger, qui cette année, il y avait le concours long. Elle était dans le jury et comme elle avait toujours des réceptions, des dîners chez elle, tout le temps, elle avait invité tous les membres du jury un soir à venir dîner chez elle. Elle m'a dit, viens, tu vas jouer quelque chose après le dîner. Je suis allée et il y avait tous ces membres du jury. Bon, alors j'ai dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir jouer? Ben, la pièce que j'ai préparée le plus, c'était la deuxième ballade de Chopin, qui était le morceau de concours. Mais je n'aimais pas du tout ce que je faisais là. Je jouais ça d'une manière, ben, ce qu'on m'avait dit de faire, parce que j'avais eu la malencontreuse idée de faire une version qui allait plus dans le sens de ce que je voulais entendre. Mais alors, ça avait créé une sorte de scandale l'année précédente. Et je m'étais dit, je vais suivre à la lettre tout ce qui m'a été dit comme ça. Je serai beaucoup plus sûre d'avoir le prix. Et j'ai joué la ballade de Chopin. Ben, je me suis dit, il faut faire quelque chose ou bien ce sera une occasion ratée. Je dis, mademoiselle, est-ce que je pourrais jouer encore un morceau? Elle dit, oui, mais il faut que ça soit court. Très bien. Alors, j'ai commencé la fantaisie de Schumann, que j'avais étudiée loin du conservatoire. Et alors, le premier mouvement, fini, Nadia Boulanger me dit, maintenant, tu t'arrêtes. Alors, Émile Gilles dit, non, surtout pas. Je veux entendre jusqu'à la fin. Et j'ai joué jusqu'à la fin. La fantaisie de Schumann. Et puis après, il m'a dit, j'aimerais vous réentendre dans quelques mois, je serai à Paris. Et quelques mois plus tard, en effet, il m'a entendu chez Nadia Boulanger, toujours, dans des œuvres que je jouais. Elle a dit, est-ce que vous voudriez venir en Russie? Je dis, ah oui, je serais absolument enchantée. Et il n'a rien dit de plus, il est parti. Et puis, je dis, mademoiselle Boulanger, vous savez, Émile Gilles m'a dit ça. Ah, tu sais, on dit beaucoup de choses, mais enfin. Et puis, en effet, quelques mois plus tard, j'ai reçu une invitation tout à fait officielle. Et je suis allée pour 8 concerts. Et puis, après le 4e, 5e concert, j'ai reçu un télégramme qui me demande de faire 8 concerts supplémentaires dans d'autres villes. Et j'ai dû donner 120 concerts, je pense, en allant plusieurs fois. Et récemment, j'étais encore à Sochi pendant le festival.
un extrait de la Fantaisie opus 17 de Robert Schumann par Idil Biret pour refermer le quatrième épisode des Grands Entretiens avec Idil Biret. Réalisation Perrine Mingui, prise de son Lucien Lefebvre, mixage Bruno Mourlan, attaché de production Flora Sternadel. Suite et fin de ce portrait demain à la même heure. Podcast et réécoute sur francemusique.fr.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.